Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Peut-être qu'on va aimer ça, le confinement, l'isolement, la disparition des uns et des autres. Peut-être qu'on va aimer ne plus voir personne, plus voir de voiture, plus voir le voisin, le cousin, le collègue. Peut-être qu'on va aimer ne plus voir que notre corps, les corps de nos très proches, les nuages, le ciel, les reflets dans l'estuaire. C'est ça que je vois là tout de suite et vraiment c'est pas mal. Peut-être qu'on va garder le goût de se parler mais à distance, le goût de s'écrire, de se téléphoner comme on faisait dans les années 90. Et peut-être que quand le gouvernement va dire c'est bon, les routes sont ouvertes, les coiffeurs, les librairies, le Parc des Princes, vous pouvez y aller les gars, bah les gens n'iront pas. Les gens resteront chez eux. Les gens feront des bras d'honneur par la fenêtre. Ou bien ils brandiront des petites pancartes avec écrit « Sans nous ». Désolé, hein, mais sans nous.
Il a été le premier artiste à grimper à bord de notre podcast quotidien d'utopie poétique, l'Arche de Nova, à formuler sa vision forcément trouble de l'avenir au temps du confinement, à esquisser ses doutes quant à notre envie de retour aux grandes embrassades sociales. Agrégé de lettres et professeur d'histoire du cinéma, l'écrivain et cinéaste Chabi Molia, 42 ans, basque de Bayonne, auto-catapulté à Ménilmontant, publiera le 20 août aux éditions du Seuil son nouveau roman « Des jours sauvages », Robinsonnade obligée de 80 Français, échoués sur une île déserte du Pacifique, ses compatriotes ayant fui notre pays, ravagé par une épidémie de grippe inédite et foudroyante. Ciel ! Non, chers auditeurs, chères auditrices, pas la peine de hurler à l'opportunisme. Ce roman était terminé en novembre dernier. Aucun d'entre eux n'aurait dû se retrouver sur cette île inconnue, écrit Chabi Molia. Il se racontait que le monde entier avait été contaminé et que ce serait une folie de le rejoindre. Ou bien, ils craignaient d'être jugés à leur retour parce qu'ils avaient déserté. Ou juste, ils trouvaient là une forme d'accord qu'en France, ce qu'ils avaient appelé la vie moderne les avait empêchés d'atteindre. Ils voulaient qu'on les oublie. Un confinement, ça peut durer, dit plus tard l'un des naufragés de cette île aux forêts dédaléennes, aux troncs noirs suintants. Ils avaient laissé derrière eux les villes polluées et les étés caniculaires, l'argent, le travail salarié, le temps compté, le temps perdu sur Internet, tous ces liens invisibles qui les empêchaient d'être heureux. La catastrophe était leur chance. Mais pendant ces trois mois de pandémie, qu'a fabriqué l'auteur du roman « Les premiers », variation Cocorico sur le mythe du super-héros en 2017, ou « D'avant de disparaître », roman qui déjà, en 2011, peignait Paris débordé par une épidémie. Nous avons une heure pour en parler avec lui, et comme dans les meilleurs films catastrophes, je vous garantis un sacré rebondissement d'ici la fin de cette émission. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez depuis 9 ans sur cette antenne. Bonjour, Chabi Molia.
Bonjour, Richard Guettet.
La dernière fois que nous avons entendu votre voix sur Radio Nova, vous étiez en Bretagne, au bord d'un estuaire, et il était question de petites pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Sans nous ». Sous-entendu, nous ne reviendrons pas dans le monde d'avant. Nous avons peut-être pris goût au confinement. Finalement, vous êtes revenu ?
J'ai mis du temps, mais je suis revenu il y a quelques jours.
Ça va ?
Ça va. Ouais, j'ai fait par palier. Je suis passé d'une sorte de lieu désert à une ville de province aux proportions modestes. Et enfin, Ménilmontant. Bayonne.
Ok.
Voilà.
Bayonne puis Ménilmontant.
Voilà, donc j'ai fait une sorte de... J'ai fait par palier comme un plongeur des grands fonds.
Pendant nos réclusions volontaires, vous avez tenu d'abord sur votre page Facebook, puis sur le site de l'Obs, une chronique des vies lointaines, c'est-à-dire un journal de confinement des autres, où vous ne parliez jamais de vous, contrairement, tiens, à Leïla Slimani ou Mario Dariussec, parmi tant d'autres, mais d'une personne anonyme, souvent en deux paragraphes. Comment vous est venue cette idée d'autres confinements que le vôtre? Est-ce en réaction à l'indécence narcissique de certains journaux de confinement, justement?
Il y a eu un peu de ça. Ça a commencé, en fait, avec des amis musiciens de Ménilmontant, qui, eux, ont tout de suite trouvé ce qu'ils pouvaient faire. Ils se sont mis, dès le premier soir, à leur balcon, ils ont joué de la musique. Et je pense que une catastrophe, ça pose comme ça une question un peu urgente aux artistes en général. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc moi, en tant qu'écrivain, j'étais un peu malheureux parce que je voyais pas très bien ce que j'allais faire. Et je dois dire, pour être vraiment sincère, que j'étais à deux doigts d'écrire peut-être mon journal de confinement parce que j'étais un peu enivré par cette situation. Je trouvais ça, je vous dirai pourquoi, mais je trouvais ça en fait super, moi, que la catastrophe survienne. Et puis j'ai vu ces journaux et je dois dire que j'ai partagé une petite sensation de malaise. Je les ai pas trouvés indécents, mais je me suis dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi aussi, j'étais un peu comme Leïla Slimani, je crois, dans une belle maison avec deux beaux enfants blonds, des très beaux livres, et je me dis, et du thé fumé, et je me dis, mais si je raconte ça, je suis pas persuadé que ce soit important. Et donc, ça m'a un peu été utile, disons, qu'elle se soit lancée avant, parce que ça m'a donné l'idée de retourner le regard et de me dire, ben enfin, je vais faire un journal extime et je vais essayer de raconter en vignette, comme ça, un panorama qui n'a pas de vocation sociologique, qui ne sera peut-être pas très représentatif, mais plein de situations de confinement, plein de manières de le concevoir, et sous une forme un peu feuilletonnante, en me disant, il y a des personnages, je vais les retrouver, comme ça, de semaine en semaine, et on verra comment leur regard sur la situation et sur eux-mêmes aura évolué.
Je vais lire l'une de vos chroniques des vies lointaines.
Nova Book Box, l'hôtel du livre-échange.
Quand sa patronne lui a écrit qu'elle ne voyait aucune raison de s'inquiéter et l'attendait le lendemain à son desk, il s'est souvenu des fonctionnaires trop confiants de Tchernobyl. C'est cela qu'il a décidé. Samedi, il a pris le train avec son fils, le wagon était rempli de gens comme lui, les bagages envahissaient le couloir, la toux d'un passager l'a inquiété. À Villefranche, il a acheté 25 kilos de pommes de terre, dont il n'a aucune chance de venir à bout, et un cubi de vin, alors qu'il ne boit jamais seul. Ça y est, c'était ma catastrophe. Je me préparais depuis que j'avais vu Mad Max. Il dit qu'il a joué à se faire peur. Dans le jardin, son fils s'imagine des aventures où il serait un général romain. Tous les soirs, l'enfant parle sur FaceTime à sa mère. Elle lui manque beaucoup. Pendant que son fils joue, lui travaille sur les écrans que la boîte l'a contraint à emporter, mais moins vite et moins bien, ce qui est loin de lui déplaire. Comme il aime cuisiner, il a glissé dans sa valise un livre de recettes avec l'espoir de réussir les desserts les plus compliqués. Son autre projet, ce serait d'apprendre enfin à se servir de la machine à coudre de sa grand-mère, qu'il a gardée après sa mort. Il avait pris un cours d'initiation il y a un an, mais n'était pas allé plus loin. Sur YouTube, il doit y avoir des tutoriels. J'aimerais pouvoir faire un ourlet de gin, des trucs comme ça, très simple. Il pense que le confinement durera 3 semaines. Demain, même s'il n'est pas sûr d'en avoir le droit, il emmènera son fils sur un sentier où l'on ne croise jamais personne pour aller voir un gouffre qui n'est pas sur les cartes.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Des portraits comme ça, il en existe une vingtaine, je crois. Comment trouviez-vous et sur quels critères choisissiez-vous les personnes que vous avez ensuite, j'imagine, interviewées?
Alors là, la chronique que vous avez lue, c'est l'une des toutes premières. Donc on est vraiment au début et y avait aussi, y avait cette envie du programme, de se dire qu'est-ce que les gens vont faire. Donc je crois que, et ça correspondait en fait à l'état dans lequel j'étais. Donc effectivement, je parlais pas de moi, mais je parlais un peu de mes préoccupations, de mon état du moment. Et ça s'est fait par affinité, par rebond. J'ai cru, en fait, je me suis dit, oh, je vais très vite faire une liste. Et puis je m'apercevais que...
Une liste de personnes.
Une liste de personnes.
Que vous pouviez contacter, qui étaient des proches, voilà, des amis.
Il y avait des amis, il y avait des gens aussi dont j'ai pu lire des témoignages sur Facebook. Par exemple, il y avait un père qui s'occupait de son fils de manière assez merveilleuse, de manière très inventive. Il faisait une vidéo tous les jours. Je le connaissais très lointainement et je me suis dit, bon, lui, ça m'intéresse. intéresse. Voilà, ce type qui a décidé de devenir comme ça l'entertainer de son fils jour après jour, ça m'amusait. Et en fait, je m'apercevais que j'arrivais pas du tout à prévoir à l'avance. C'est-à-dire qu'une chronique appelait un nouveau ricochet qui allait être différent en fonction de ce qu'avait été la chronique, en fonction aussi de la manière dont la situation évoluait, dont les choses s'étiraient. Donc ça s'est fait comme ça, un peu jour après jour, dans une certaine urgence. Parfois, j'étais comme un addict en quête de sa dose. Les heures passées, je me disais, mais j'ai personne, qui je vais trouver ? Je tentais des trucs, parfois ça tombait à l'eau, voilà. Donc c'était une sorte de quête qui s'est un peu inventée au fil des jours.
Et vous appeliez les gens pour leur poser des questions, pour recueillir, ou vous leur demandiez des textes ?
Non, je faisais deux choses. Je leur demandais deux photos. J'ai demandé à chacun de m'envoyer une photo de ce qu'il voyait depuis une fenêtre, une de ces fenêtres. Et je lui demandais de m'envoyer également une photo d'un objet qui avait pris de l'importance depuis le début du confinement. Cet objet pouvait être important et apparaître dans le texte. C'est le cas de la machine à coudre du personnage dont vous avez lu la chronique. Ou bien ça pouvait être un secret, quelque chose qui ne m'était pas expliqué. Et ensuite, je les appelais pour des conversations très longues. Certains d'entre eux sont des amis. Et la situation de documentariste dans laquelle je me suis mise a fait que je leur ai posé des questions qu'on ne pose pas en fait à ses amis, où je les ai écoutées sur une durée qui est inhabituelle dans l'amitié. Voilà. Donc en fait, ça a créé aussi quelque chose d'étonnant, même avec des gens que je pensais très bien connaître.
Une question qu'on ne pose pas à des amis, par exemple ?
Mais je crois que je ne suis pas persuadé, sauf dans des situations où ils sont extrêmement touchés par un événement, qu'on ose comme ça vraiment aller au fond de leurs sentiments, par exemple, leur dire voilà, comment tu te sens, est-ce que tu es absolument triste, est-ce que tu es, vous voyez, ce genre de choses qui en fait sont, alors je sais pas, peut-être je suis trop dans une retenue, mais je trouve ça assez presque indécent en fait.
Qu'est-ce que cet exercice au fil des semaines vous a apporté? De quelle manière ça vous a structuré?
Alors en fait, ça m'a apporté deux choses. D'abord, ça m'a donné une place dans le cours des événements. Je me suis donné une place, c'est-à-dire que j'ai trouvé quelque chose à faire et j'en avais besoin. Je n'avais pas la force d'âme qu'ont eu plein de gens de ne rien faire, de tout interrompre. Moi, j'ai eu besoin d'être écrivain. Donc ça m'a donné modestement quelque chose à faire avec une deadline tous les 2-3 jours pour tenir le rythme. Et puis, ça m'a aidé à expérimenter une forme d'écriture dont j'ai envie depuis très longtemps. Moi, je suis très attiré par la forme documentaire. Je pratique le documentaire en tant que cinéaste, mais j'ai la sensation qu'il y a des sujets qui ont besoin de la littérature. Et la littérature peut s'emparer de ces sujets. Je pense notamment à la justice, au fonctionnement de la justice. La littérature peut s'emparer de ces sujets beaucoup mieux que le cinéma, beaucoup mieux que le récit audiovisuel. Elle est beaucoup moins empêchée aussi que le langage des images. Mais j'ai jamais osé me lancer. Et la catastrophe a fait que tout d'un coup, j'ai fait cet exercice, que ça m'a plu, que j'ai commencé à développer ma petite méthode d'auteur. Alors, je ne pense pas que je ferais tout par téléphone si je devais parler de la justice en France, mais en tout cas, je me suis prouvé en marchant que peut-être je pouvais continuer ce chemin. Donc, je crois que ça va appeler d'autres textes.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Jour après jour, seul sur la colline, un homme vit retiré du monde comme s'il s'agissait d'une île. Et personne ne vient lui parler, on le surnomme le fou. Non, personne ne veut s'approcher de ce fou sur la colline qui regarde les nuages caresser ses cheveux. Le riso dans les yeux. Jour après jour, seul sur la colline, un homme vit retiré du monde comme s'il s'agissait d'une île. Et personne ne vient lui parler, on le surnomme le fou. Non, personne ne veut s'approcher de ce fou sur la colline qui regarde les nuages caresser ses cheveux, le riseau dans les yeux. qui suis attiré par celui que l'on nomme fou. Je suis toujours intimidé par ce fou sur la colline qui contemple les nuages, caresser ses cheveux, l'horizon. De ce fou sur la colline qui regarde les nuages, caresser ses cheveux, l'horizon dans les yeux.
Si quelqu'un me cherche, dites-lui que je suis parti monter un groupe de rhythm and blues pour reprendre tout l'été sur les plages cette adaptation de The Fool on the Hill des Beatles par Eddie Mitchell, tirée de son album Set Colt pour Schmoll. C'était en 1968 et je crois que mon père sera content. Mon invité est toujours là, Chabi Molia, écrivain et cinéaste. Je vous ai demandé de venir dans cette émission avec peut-être, si possible, l'un des livres qui vous a accompagné pendant le confinement et ou qui vous aurait aidé à comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons, cet étrange point de flottement de notre histoire. Et vous avez choisi
un livre de Michael Finkel qui s'appelle Le dernier ermite. Et c'est un livre qui ne m'a pas accompagné pendant le confinement parce que j'ai fui à la vitesse d'un héros de film catastrophe juste avant le confinement. J'ai fui mon lieu d'existence et donc je ne l'ai pas eu avec moi. Mais j'y ai pensé et il m'a manqué.
Ah oui.
Et je l'ai refeuilleté récemment. Le dernier ermite, c'est l'histoire d'un homme qui est arrêté pour cambriolage dans un lieu collectif. Et on s'aperçoit, en fait, en l'arrêtant, qu'il est absent du monde depuis une trentaine d'années. Et en fait, c'est un homme qui vit dans une forêt, en reclus, et qui...
En Amérique, aux États-Unis ?
Oui, c'est dans le Maine, aux États-Unis. Et ce qui est très particulier dans sa situation, c'est qu'il est en reclus, qu'il n'a vu personne depuis des années, mais il vit très peu éloigné d'habitation. Il ne vit pas dans le désert. Il vit dans une zone inextricable de forêt où personne ne va, mais il ne vit pas très loin de maison. Et pour survivre, il a plein de talents de survivant, mais il commet de menus larcins dans des résidences secondaires. Il dérobe des boîtes de conserve, des piles, une lampe, un vêtement, etc. Et pour ça, il est condamné aux États-Unis. Et le livre commence avec son arrestation et remonte comme ça le fil de son existence et de son choix de disparaître. Donc c'est une sorte de confiné volontaire au grand air et sur une période de temps extraordinairement longue.
C'est un roman ou c'est inspiré d'une histoire vraie?
C'est un de ces livres que je lis de plus en plus. C'est de la littérature documentaire comme les Américains savent la pratiquer.
Nova Book Box. Parfois, une page suffit.
L'aube est proche désormais. Le pic d'obscurité est dépassé. Knight va bientôt être avalé par le système judiciaire. Vance ne l'ignore pas et il ne s'exprimera peut-être plus jamais librement. Elle aimerait une explication. Pourquoi se retirer du reste du monde? Mais il admet être incapable de lui fournir une raison claire. Elle désigne les escarres qu'il a au poignet. Comment faisiez-vous pour avoir accès à des médicaments, s'enquiert-elle? Ou au médecin? Je ne prenais pas de médicaments. Et je ne suis jamais allé consulter un docteur. Avec l'âge, précise-t-il, les coupures et les hématomes guérissaient plus lentement, mais il ne s'est jamais infligé de blessures graves. N'êtes-vous jamais tombé malade? Insiste-t-elle. Non, fait-il. Pour tomber malade, il faut être en contact avec d'autres humains. Quand avez-vous été en contact avec un autre humain pour la dernière fois? Il n'a jamais eu de contact physique, répond-il, mais dans les années 1990, il a rencontré un randonneur alors qu'il marchait dans les bois. Que lui avez-vous dit? S'enquiert Vance. Je lui ai dit bonjour. Excepté cet unique mot, répète-t-il, il n'avait plus parlé avec un autre être humain, plus touché personne, depuis 27 ans, jusqu'à ce soir.
Rappelez-nous le nom de l'auteur.
Ça s'appelle Le Dernier Ermite, et l'auteur s'appelle Michael Finkel.
Vous le connaissiez avant ?
Du tout. Je suis tombé là-dessus en préparant un roman sur les grandes situations de solitude. Et quand j'ai vu Le Dernier Ermite, je me suis dit, voilà, ça c'est un livre pour moi.
Nova Book Box. Nova te mince la tête avec tes mots très doux.
Porterais-tu sur une île déserte quelques disques, pas grand-chose, rien que quelques disques. Qu'emporterais-tu sur une île déserte quelques livres, trois fois rien, rien que quelques livres. À quoi sert de poser des questions? Arrête de me prendre pour un con. Tu sais que les îles désertes n'existent plus. Les îles désertes n'existent plus. Chaque centimètre, millimètre est peuplé de choses délirantes. Et les îles désertes n'existent plus. Si nous étions sur une île déserte, m'embrasserais-tu enfin? Ton instinct. Quand sera demain est inutile, quand ta vie ne tient plus qu'un fil. Tu sais que les îles désertes n'existent plus. Les îles désertes n'existent plus. Chaque centimètre, millimètre est peuplé de choses délirantes. Et les îles désertes n'existent plus.
C'est sorti en novembre 2019, ce n'est qu'un fragment de la chanson qui fait presque 8 minutes au total. Et Michaud, sans rapport je suppose avec Henri, vit lui-même sur une île, celle de Samsø au Danemark avec ses enfants et son potager, comme le chuchote à l'oreille notre programmateur musical Mickaël Liot.
Putain, où sont mes lunettes? J'ai encore perdu mes lunettes. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi?
Il a vraiment entendu quelque chose à la radio, Cooper ? Demanda soudain son fils. Je crois, oui. En brésilien ? Ouais, fit l'amiral. Un jour, il faudrait qu'il enseigne à son fils ce qu'il avait appris sur le mensonge. Enfin, pas sur le mensonge, mais sur le récit. Sur les besoins de leur récit de naufragés. Des voix à la radio, il y en avait, sans aucun doute. Il fallait qu'il y en ait. Et que les survivants le sachent. Qu'ils y croient comme on croit à la gravitation universelle. Que, dans leur histoire, ces voix se présentent quelque part dans le ciel, des ondes invisibles flottant au-dessus d'eux.
Nova Book Box, sous les couvertures, des personnages au poil.
Je suis toujours en compagnie de l'écrivain et cinéaste Chabi Molia, qui publiera le 20 août « Des jours sauvages », son nouveau roman sur... Mais bon sang, ça alors, comment est-ce possible? 80 Français naufragés sur une île quelque part entre le Brésil et le Cap-Vert, après avoir fui... Je vous le donne en mille, une épidémie de grippe. C'est à paraître aux éditions du Seuil. Alors de loin, comme ça, sans réfléchir, on pourrait croire à un léger opportunisme tel le vieux BHL avec son bouquin de 112 pages, scrogneugneux, laissez-moi prendre l'avion et faire des bisous à qui je veux. Mais non, pas du tout. Votre livre était terminé bien avant les premiers cas de Covid-19 recensés en France, quand vous avez entendu parler des premiers malades et de la propagation du virus à vitesse grand V. Qu'avez-vous pensé, ressenti? Est-ce que vous vous êtes dit... Oh bordel, j'ai un super pouvoir, je peux voir le futur. Ou vite mon amour, donne-moi un marteau, il faut fuir, je vais construire un bateau.
Oui, j'ai plutôt dit vite mon amour. Je me suis senti en fait dans le prologue d'un film catastrophe. Et en fait, j'ai passé 4 ans à écrire un mémoire sur les films catastrophes hollywoodiens. Donc il y avait une sensation très étrange de collusion entre ma vie imaginaire et les événements. Et c'est vrai que j'ai eu un peu honte aussi, je crois. De me dire ah, je vais publier un livre sur ce qu'on est en train de vivre et il y aura bien quelque part un journaliste pour se dire que je l'ai écrit en 3 semaines et que j'ai fait œuvre justement d'opportunisme.
Et non, et du coup, il faudra fortement communiquer sur le côté. Non, non, je vous jure, c'était fini bien avant. Vous l'avez fini quand, d'ailleurs?
Non, j'ai terminé au mois de novembre. En revanche, ce qui était 2019. Très particulier, c'est que j'étais en train de corriger les épreuves au moment du début du confinement. Et j'ai dû faire des tout petits ajustements. Et le petit ajustement que j'ai fait, c'est que les personnages que j'avais imaginés, c'est un peu comme forcément dans un récit d'anticipation, et ben j'étais obligé de me dire qu'ils avaient la mémoire d'un confinement. Qu'en fait, ils avaient forcément vécu une épidémie de grippe suffisamment foudroyante et grave pour les sortir un certain temps du monde. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer, mais j'imaginais quelques mois. Et donc, moi, mes personnages vont passer beaucoup de temps sur cette île, mais ils vont passer du temps sur cette île avec cette idée que ces choses-là arrivent.
L'enjeu de ce roman, Des jours sauvages, n'est pas de parler de cette grande grippe. Vous n'y consacrez que quelques lignes. C'est tout juste si on sait que des traces rougeâtres marbrent le visage gonflé des victimes. C'est d'ailleurs un ressort classique des scénarios catastrophes. En dire le moins possible sur l'origine du bouleversement international pour s'intéresser plutôt aux conséquences humaines du cataclysme à l'échelle de la société ou d'un groupe d'individus. Qu'est-ce qui met le feu aux poudres dans votre cerveau, l'étincelle qui donne envie de se lancer dans la Robinsonnade?
Je sentais confusément qu'il y avait quelque chose qui, je crois d'ailleurs, s'est vraiment rejoué en moi pendant le confinement et en beaucoup de gens, qui était cette envie qu'on a parfois de fuir le monde. Et en même temps, ce monde, une fois qu'on l'a fui, nous manque terriblement. Mais il y a quelque chose de très contradictoire, et je crois que la littérature se nourrit justement de ces contradictions qui n'ont pas forcément vocation à être résolues. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper contradictoire, de tiraillé entre des envies hyper différente. J'avais très très envie de fuir le monde et en même temps pendant le confinement j'avais super besoin d'aller au Super U entendre des voix et des gens se plaindre du gouvernement et de tout ça parce que ça me manquait terriblement.
Chabi Molia, en démarrant la lecture je me suis dit tiens, est-ce qu'il va nous livrer une variation autour de la série Lost par exemple avec ses naufragés? Quand on se lance dans un roman de genre au code déjà très présent dans l'esprit du public, comment est-ce qu'on se débarrasse des références préexistantes qui, je suppose, peuvent être dans un premier temps envahissantes?
Mais je crois pas qu'on se débarrasse de ces références. On a plutôt confiance dans le fait qu'on va forcément livrer à partir d'une série de références quelque chose de personnel. Moi, je suis vraiment pas du tout accablé par le fait d'avoir été précédé par plein de choses. Et la Robinsonnade, c'est un genre en soi. Mais poser la question de la Robinsonnade aujourd'hui n'est pas du tout la même chose qu'en 1980 ou qu'au XVIIIe siècle. Et ma relecture de Lost, alors je ne connais pas très bien la série, j'ai juste regardé la première saison, mais se dire c'est Lost avec des Français dedans, c'est déjà complètement autre chose. Mm-hmm. Vous avez déjà un autre horizon, c'est comme dire écrire un roman sur des super-héros français, l'adjectif il change tout. Et j'avais plutôt confiance en ça, en fait, dans le fait qu'avec ma francité, j'allais dégrader en fait l'imaginaire hollywoodien et en faire quelque chose de très proche de moi, de très proche de mon lecteur. J'avais vraiment une saveur par avance à me dire voilà, des Français sur une île, ça me faisait ricaner doucement. Et souvent, ce qui me fait ricaner doucement, c'est un bon point de départ en fait.
Souvent, le roman d'île déserte est un prétexte pour décrire une utopie, une esquisse de civilisation alternative où la société est réorganisée pour le pire ou pour le meilleur. En creux, ça peut devenir une critique de la société humaine qui s'en remet trop souvent à la loi du plus fort, par exemple. Mais ce n'est pas exactement le choix que vous faites dans votre roman Des jours sauvages. Vous privilégiez plutôt les stratégies de survie ou le développement des affects des personnages, leur passé et comment ils changent au contact de l'île. Pourquoi ?
Parce que je suis romancier et pas essayiste. Quand on fait le choix du roman, on fait le choix de personnages, de situations. Et si l'utopie est présente, il ne faut surtout pas, à mon sens, qu'elle soit présente en tant que projet romanesque, mais en tant que projet de personnage. Moi, il y a des utopistes dans ce roman. Il y a des personnages qui se disent « Et si on reconstruisait tout ?» Et je les aime beaucoup pour ça. Parce que je crois que... et on l'a senti d'ailleurs dans la période du confinement. Très paradoxalement, la catastrophe ouvre un temps pour l'utopie. C'est dans le temps de l'effondrement, c'est dans le temps où le monde se retire sous nos pieds, que tout ce qui nous était donné pour acquis et qui, du coup, nous paralysait en tant qu'homme agissant, mais aussi en tant qu'homme imaginant, c'est dans ce moment-là que quelque chose s'ouvre. Et c'est pour ça que dans une ville catastrophée comme Détroit, il y a des projets utopistes. Que pendant qu'on lutte contre Hitler, on rêve du Conseil national de la résistance et on se met à imaginer une société meilleure. Oui. Et donc je pense que j'ai voulu faire de l'utopie plutôt une matière d'imagination pour mes personnages que moi me dire je vais imaginer ma société idéale. Je pense que ça aurait été désastreux, ça m'aurait fait sortir en fait de ma morale de romancier.
Il y a dans votre roman une sorte de Libertalia basque, qui est votre région d'origine, présentée comme un peuple d'épicuriens hippies, ce qui fait toujours plaisir. J'embrasse nos auditeurs basques. Chacun transporte son tyran, avait dit Elorriaga. Mais ce tyran, on peut le tuer. Des interdictions les aideraient. Ils ne parleraient plus jamais du passé. Pour oublier qui ils étaient, ils ne prononceraient plus leur nom. Chaque fois qu'ils se sentiraient tristes ou envieux, ils étaient invités à sauter un repas. Toute une rééducation avait commencé pour penser moins, pour sentir mieux. Il y avait des exercices de méditation et des séances de pleine conscience. Perchés dans les arbres, le nez au ras du sol ou les pieds dans l'eau de la crique, ils écoutaient et ils flairaient les yeux bandés. Et Elorriaga les exhortait aussi à décélérer. Ils devaient s'efforcer de manger, de marcher, de faire l'amour très lentement. Beaucoup s'en émerveillaient, l'agitation les quittait et peu à peu, il leur semblait qu'ils retrouvaient le monde. Le soir, de brefs sermons sapaient ces catégories fumeuses qui dénaturaient la vie. Le sujet et l'objet, le temps du calendrier, l'homme et les animaux. Un jour, il n'y aurait plus d'avenir. Leur âme, enfin calmée, se livrerait au seul sentiment de son existence et leur projet, borné comme leur vue, s'étendrait à peine jusqu'à la fin de la journée. Ça devenait flippant, disait Charlie. Ça, c'est une utopie régulièrement partagée. Déjà, ralentir, la pleine conscience.
Oui, moi, j'ai essayé de prendre très au sérieux mes envies, qui sont aussi les envies de plein de contemporains. Et cette idée que peut-être les Robinson d'aujourd'hui, à la différence du Robinson des origines, voudraient rester et non plus repartir. Et donc, il y a quelque chose quand même de, voilà, qu'on vit qui est une profonde insatisfaction avec la marche du monde, le monde tel qu'il va. Et tout d'un coup, ces personnages, emmenés par cet homme, Elorriaga, se trouvent en situation d'essayer de tout changer dans leur vie. Et Elorriaga, c'est un MacGyver de l'utopie. C'est un type qui, très concrètement, se dit « Bon, bah, comment on fait pour se libérer de la langue, si la langue est fasciste ?» Alors lui, il n'a pas lu Barthes, mais enfin, il en est un peu arrivé là. Comment on fait pour changer de manière de penser ? Comment on fait pour se sortir de l'inquiétude du lendemain ? Comment on fait pour se sortir de cette chose qui nous a été inculquée, que l'homme n'est pas un animal ? Voilà. Comment on fait pour mettre en œuvre cette pensée très contemporaine qu'on peut lire chez Baptiste Morisot, chez plein de penseurs importants d'aujourd'hui. Et eux, ce sont des praticiens de ces théories, mais ils le font avec les moyens du bord, qui sont aussi les miens. C'est-à-dire, bah, comment on fait ? Alors, bah, ça passe par des exercices pratiques, et puis ça va passer par des punitions. Et c'est peut-être là que l'utopie va déraper. C'est que, bah, il faut bien s'obliger, il faut bien obliger les autres.
Vous avez un talent certain pour résumer la vie d'un personnage, ses joies et ses peines, en deux pages, sur la même ligne de pudeur que vos chroniques des vies lointaines dont nous parlions au début de cette émission. Comment est-ce que vous faites ça, les biographies imaginaires ?
C'est quelque chose qui m'a manqué dans mes lectures, dans mes lectures françaises. Je trouve que les romans français ont perdu cette chose qu'on trouvait encore chez Balzac, par exemple, qui était comme ça, en une page, racontait un itinéraire. Et je me souviens d'avoir adoré retrouver ça dans le premier roman de Tristan Garcia. Et Tristan Garcia, ça...
La meilleure part des hommes.
La meilleure part des hommes. J'avais lu ça et je retrouvais ce que j'aimais chez Balzac et aussi chez plein d'auteurs américains. Franzen fait ça très bien, par exemple. Ou Philip Roth, ils font ça très bien. C'est-à-dire donner une épaisseur historique, que les personnages... Et un itinéraire dans la société, un itinéraire dans l'époque. Moi, je suis un enfant des années 80 et un enfant de la vie provinciale pré-internet, et je pense que c'est déterminant. Et je pense que mon envie de confinement et mon goût bizarre pour la catastrophe vient de l'ennui métaphysique que j'ai ressenti dans cette période-là et dans cette géographie-là. Et j'essaye de resituer les personnages. C'est quelque chose qui m'a manqué dans mes lectures. Petit frère n'a qu'à souhait devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine.
destine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tronches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on gicle les Blanche-Neige et tape éclate des types claques dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées, plus de sirop dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère,
rêve de bagnole, de fringues et de thunes, de réputation de dur, pour tout ça il volerait la lune. Il collectionne les méfaits, sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames-dames de l'Afrique. Plus de cartables, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier, pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère,
les temps ont changé.
Demain tout ira mieux, tu verras.
Les journalistes font des modes, la violence à l'école existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant, juste surexposé à la pub aux actes violents pour des grandes causes et de meilleurs citrons. La cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'il s'en procure, petit frère s'assure, flingue à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Le célèbre Petit Frère des Marseillais d'Ayam en 1997, ou l'art de la biographie express insérée dans les fractures de la société, tout ça en moins de 5 minutes. Un peu comme le récit des vies des naufragés du roman Des Jours Sauvages, ces naufragés fuyant la France en proie à une épidémie de grippe qui ravage le pays, roman terminé en novembre et qui paraîtra à la rentrée aux éditions du Seuil. Je suis avec son auteur, l'écrivain et cinéaste français Chaby Molia. En 2011, vous avez écrit un roman intitulé « Avant de disparaître » qui racontait l'histoire d'un médecin chargé de traquer les premiers signes d'une maladie qui transforme certains de ses concitoyens en êtres bestiaux et assoiffés de violence. L'épidémie gagne du terrain. Assiégée par les infectés et retranchée derrière des fortifications de fortune, les survivants affrontent au quotidien les conséquences du désastre. Chaos, pénurie, soupçons. Ce roman, Avant de disparaître, a été pendant un mois en accès libre sur le site de votre éditeur, gratuitement. Une épidémie, la vie confinée à Paris, un médecin qui traque des cas suspects. Mais c'est quoi votre problème, votre passion suspecte pour les catastrophes ?
Alors c'est vrai que ça fait de moi un romancier de l'épidémie. Mais comme je disais, j'ai grandi J'ai grandi dans une ville de province dans les années 80.
Bayonne.
Qu'aujourd'hui j'aime beaucoup, mais à l'époque je n'aimais pas. Je m'y ennuyais. Les dimanches me prenaient des froids comme ça. Et j'en suis venu avec un ami à fonder un club qui n'a jamais compté que deux membres, qui était le club de l'Apocalypse. Et ce club était une sorte de think tank, de groupe de recherche. On était au collège, mais on travaillait sur la fin du monde qu'on appelait de nos voeux, et on réfléchissait aux causes les plus probables de fin du monde et dans quoi on pouvait placer notre espoir. On lisait Ça m'intéresse, qui était un journal sensationnaliste qui annonçait comme ça plein de catastrophes, la fonte des glaces, etc. Et assez vite, on était arrivé à l'idée que la chance la plus probable qu'on ait, c'était l'épidémie. Que l'épidémie était ce qui avait le plus de chances de nous faire entrer dans le temps de la catastrophe, qui pour nous était le temps de l'aventure. Nous, on rêvait de la catastrophe parce qu'on se disait, voilà, on va se retrouver, tu prendras des chipsters, moi je prends la tente, etc. On va dans la forêt. Enfin, vous voyez, j'avais évidemment un goût immodéré pour la catastrophe. Aujourd'hui, il s'est beaucoup tempéré. Bien sûr, je vois tout ce qu'il y a d'horrible dans une catastrophe, même comme celle qu'on vient de vivre. Mais je peux pas me débarrasser complètement de cette sensation qu'on a envie, comme ça, parfois, que le décor s'effondre. On l'appelle de nos voeux. Il y a une séduction, disons, du désastre. Parce que c'est la promesse que dans nos vies, tout pourrait changer.
Chabi Molia, je l'ai dit au début de cette émission, vous êtes aussi cinéaste. Vous avez tourné notamment 3 longs métrages, 8 fois debout, Les Conquérants et Comme des Rois, le dernier en date, sorti en mai 2018, avec Kad Merad. Cette semaine, vous tourniez encore un documentaire que vous, je suppose, tournez depuis longtemps, à Grenoble, sur une classe de 3e, pas comme les autres, m'avez-vous dit. Il sortira en salle l'année prochaine, si tout va bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a de si original, cette classe ?
C'est une classe qui accueille des adolescents qui ont l'âge d'être en 3e et qui sont en rupture scolaire. C'est-à-dire que depuis des années, parfois, ils n'ont pas mis les pieds à l'école. On les appelle aussi des polyexclus. Ils ont été renvoyés de tous ces établissements de l'agglomération grenobloise. Et l'Éducation nationale a signé avec eux une sorte de paix des braves qui est « on t'inscrit là, mais en échange, tu viens pas. Comme ça, tu foutras pas le bordel, etc. »
Tu viens pas à l'école.
Tu viens pas à l'école, mais comme ça, toi, ça te va, nous, ça nous va, etc. Il y a beaucoup d'élèves, en fait, dans ce cas-là. Et ils vont rencontrer, par les hasards des choses, font qu'à Grenoble, il y a dans l'Éducation nationale un dispositif pionnier qui est animé par quelqu'un que j'ai connu depuis quelques années. Et il fait une classe joyeuse, inventive, différente. Une classe qui va à la fois les réconcilier avec la littérature, l'écriture, et aussi avec un projet professionnel. Ils vont aller de stage en stage et essayer de s'inventer un destin, ce qui n'est pas facile à 14-15 ans. Donc l'un va être un peu pâtissier, un peu pompier, un peu boulanger, voilà. Et à la fin, va se réembarquer dans une autre histoire de vie. Donc c'est une tentative de réparer la République qui essaie de réparer après avoir beaucoup cassé. Et je suis ça depuis plus d'un an. C'est aussi regarder très près une adolescence qui va très mal. Et c'est pour moi, en fait, essayer de... Moi, dans ma vie, j'ai envie de tenir la réalité par ces deux bouts incandescents. C'est-à-dire, j'ai envie d'un côté de plus en plus d'aller vers des choses qui sont brutes, donc vers le documentaire, qu'il soit écrit ou qu'il soit audiovisuel. Et j'ai aussi envie d'aller regarder le réel à partir de genres qui empruntent au fantastique ou qui empruntent à ce qu'on appelle le romanesque, sans toujours savoir de quoi y mettre, mais par exemple la romansonnade en fait partie. Alors je ne sais pas si on a le droit dans la vie d'être d'un côté essayer de lorgner du côté de Garcia Marquez et de l'autre de lorgner du côté de Wiseman ou de Depardon, mais moi j'ai décidé de pas choisir et de faire ça, d'occuper mes semaines un peu à ces deux choses-là.
Comment fait le professeur dont vous parliez, que vous suivez pour ce documentaire, comment il fait pour réconcilier ses élèves avec la littérature ?
Il les assomme en leur lisant dès le premier jour le début de Corniche Kennedy de Maëlys de Kerangal. Les élèves sont choqués. Ils sont extraordinairement déçus. Ils ont l'impression qu'on les a trahis parce qu'ils pensaient que cette école était différente et qu'ils y croiseraient donc jamais un livre. Et à partir de Corniche Kennedy, il enchaîne sur Coltès la semaine d'après, puis sur Valère Novarina. Enfin voilà, il met les choses comme ça. Et il leur montre comment ces écrivains ont écrit à partir de questions qui sont en fait les leurs. Par exemple, en leur parlant de Corniche Kennedy, il leur dit, voyez, elle a écrit à partir d'un lieu qui l'intéressait.
Et
ce lieu, la Corniche Kennedy est un lieu plein d'histoire. Vous en connaissez, vous, non, des lieux pleins d'histoire? Si je vous dis le square machin à Grenoble, vous n'avez pas des histoires là? Et là, les gamins se mettent un peu à sourire, à imaginer. Oui, bien sûr, ils ont des histoires. Et donc, ils comprennent que la littérature, c'est jamais que ça, que essayer de mettre en mots des questionnements, des expériences qu'on a en commun. Et à partir de là, les choses s'enclenchent.
À l'âge de ces élèves, je crois savoir que vous étiez fan de livres dont vous êtes le héros, ces romans-jeux interactifs nés dans les années 60 qui ont connu leur heure de gloire à partir de 1982 et la publication du Sorcier de la Montagne de Feu. Principe élémentaire, je le rappelle, à la fin de chaque chapitre, plusieurs scénarios s'offrent au lecteur, à lui de faire le bon choix pour terminer l'histoire en un seul morceau. Alors parce que c'est l'été, Chabi, je vous propose la plus courte partie de l'histoire des romans dont vous êtes le héros. C'est pas du tout préparé. J'ai deux livres sous les yeux, deux classiques. Je vais vous proposer déjà de choisir entre Le labyrinthe de la mort de Ian Livingstone et La créature venue du chaos de Steve Jackson. À quel roman voulez-vous
Je vais prendre tout de suite Le labyrinthe de la mort parce que sur la couverture, il y a une sorte de limace géante qui fait aussi penser à Jabba le Hutt, qui est aussi une autre grande influence de ma vie d'adolescent. Donc voilà, Le labyrinthe de la mort.
Maintenant, je vais vous demander de choisir un nombre compris entre 1 et 400.
35.
Et là, petit résumé tout de même pour nos auditeurs avant de savoir ce qui se passe au chapitre 35. Conçu par l'esprit diabolique du baron Sukhumvit, le labyrinthe de la mort est truffé de pièges mortels et peuplé de monstres sanguinaires. D'innombrables aventuriers ont tenté de franchir l'entrée du labyrinthe et n'ont plus jamais reparu. Et vous, oserez-vous y entrer? Vous serez l'un des 6 combattants sélectionnés pour affronter ces périls. Un seul gagnera peut-être et les autres succomberont. Qui sera l'éventuel vainqueur?
J'adore. J'ai le cœur qui bat.
Chapitre 35. Le tunnel continue vers l'ouest pendant quelques centaines de mètres, puis il aboutit finalement au pied d'un escalier qui est fermé par une trappe. Chabi Molia, vous grimpez lentement les marches et vous entendez le son étouffé de plusieurs voix. Dans la faible lumière, vous constatez que la trappe n'est pas fermée à clé. Vous avez 2 possibilités. Ou bien vous frappez contre le panneau de bois, ou bien vous repoussez brutalement la trappe et vous faites irruption dans la pièce, l'épée à la main.
Je vais frapper.
Nous allons au chapitre 333.
Alors, je pense que le lecteur de 12 ans n'aurait pas frappé, mais je voudrais justement frapper à la porte de manière courtoise, voir ce que ça donne.
Des pas retentissent. Et soudain, la trappe se soulève. Pendant quelques instants, vous êtes complètement aveuglé par la vive lumière qui inonde la pièce au-dessus de vous. Et vous ne voyez pas le gobelin jeter sa lance en visant votre gorge. La pointe de l'arme vous transperce le cou, tandis que le gobelin éclate derrière sadique que vous n'entendez même pas. Votre aventure s'achève ici, sur les marches du tunnel de pierre. C'est fou!
Voilà.
Cette partie a duré 2 minutes et demie. C'est dingue. Bon, ok. Chabi Molia, nous arrivons à la fin de cette émission et comme n'importe quel feuilleton ou comme à la fin de n'importe quel chapitre du livre dont vous êtes le héros, je vais terminer sur un coup de théâtre, un cliffhanger. Est-ce que vous êtes prêt?
Je suis prêt.
Vous êtes le dernier invité de cette émission. Carla Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova, diffusé sur cette antenne depuis septembre 2011, ne reprendra pas à la rentrée. Est-ce que vous avez, vous, le poète, les mots appropriés pour ce moment historique, que dis-je, vertigineux? Quel est le plus beau texte que vous ayez jamais entendu pendant des funérailles?
Je suis sidéré. je ne sais pas ce qu'on dit dans ces moments-là, du tout.
Alors, comme dans les feuilletons à succès, un coup de théâtre se cache derrière ce coup de théâtre. Vous êtes mon dernier invité, mais ce n'est pas la dernière émission. Le tout dernier numéro de la Nova Book Box sera enregistré ce jeudi 2 juillet de 20h à 22h en public, à bord de la péniche Grande Fantaisie, 5 quai de l'Oise, dans le 19e arrondissement de Paris. C'est là que nous avons notamment célébré les 2 dernières cérémonies du prix de la page 111. Est-ce que je peux me permettre de vous suggérer de passer nous faire un petit coucou ce jeudi, si vous êtes libre?
Bien sûr. Et je viendrai avec une phrase appropriée que j'irai chercher dans Bilbo, le Hobbit, où il y a une très très belle phrase sur l'appel de la route. Et c'est ça que je vous souhaiterais. Une très belle route.
J'invite également toutes les personnes qui en ce moment nous écoutent en direct ou en podcast à nous rejoindre ce jeudi pour cet enterrement de première classe que j'envisage comme quelque chose d'assez mexicain. Dansons sur les tombes en sirotant de la tequila avec de nombreuses surprises. Et tous les artistes qui ont compté dans ces 9 saisons d'aventure littéraire, la dare des dares de la Nova Book Box, rendez-vous ce jeudi, donc 2 juillet de 20h à 22h en public à bord de la péniche Grande Fantaisie. Je répète, 5 quai de l'Oise, Paris 19e, entrée libre. Merci beaucoup, Chabi Molia.
Merci.
Et à jeudi.
Oui, à jeudi. Merci beaucoup.
L'émission d'aujourd'hui a été réalisée comme chaque semaine, ou presque depuis 5 piges, par Captain Papito Sullivan Clabot. Merci à lui. Et comme dit Alejandro Jodorowsky, d'une peau de tigre accrochée au mur, nous ferons des tigres.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
La route, qui se poursuit sans fin, a commencé à ma porte et depuis m'a conduit si loin. D'autres, maintenant, elle emporte, lancée dans un nouveau voyage, mais moi, enfin, les pieds fourbus, je gagne l'auberge au village, trouver le repos qui m'est dû. Et comme il marmonnait les derniers mots, sa tête tomba sur sa poitrine et il s'endormit aussitôt. Le crépuscule enveloppa la pièce et la lueur du feu se fit d'autant plus vive. Et ils observèrent Bilbo qui dormait et virent que son visage était souriant.